juste avant de commencer, j'ai deux salutations. J'ai transmis quelques chants à Sœur Christine, à ma femme et à la famille. Et vient de me répondre qu'ils ont été très émus en écoutant les beaux chants. Et ils vous transmettent les chaleureux salutations. Deuxième salutation. Après, Dieu voulant, nous aurions quelque chose sur l'évangélisation, minute, donc très courte. Alors là, je vous transmets les salutations de Mwambi Nyonyo. Pour ceux qui le connaissent, qui est très heureux qu'on parle de ça aussi, Maintenant, nous passons à l'Épître aux Éphésiens, deuxième partie. Alors, nous nous sommes rappelés de la géographie hier. Nous avons Kananga et la République du Congo. Nous avons toute l'Afrique. Le pays d'Israël, l'Asie mineure, aujourd'hui c'est la Turquie, ici c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne, et dans cette Asie mineure, nous avons Éphèse. Maintenant, nous faisons un zoom. Nous avons l'Afrique du Nord, Israël avec Jérusalem, la Grèce, et toute cette péninsule qui est aujourd'hui la Turquie. Et avec l'Asie mineure et Éphèse la capitale. Un peu plus à l'est, il y a la Galatie dont a parlé le frère Michel.
Et
puis nous avons près de Éphèse les villes de Laodicée et de
Colosse.
L'apôtre Paul est en prison très probablement à Rome. Il a des nouvelles de
Epaphras.
Il lui parle de Colosse. Il a aussi des nouvelles de
Éphèse.
Des assemblées qui se trouvent dans cette région. Alors il ne peut pas venir puisqu'il est prisonnier. Mais il va envoyer un fidèle frère,
Tichico,
qui va apporter la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens, et même une troisième lettre, la lettre à Philémon, un frère de Colosse, que nous verrons les circonstances de l'Épître aux Colossiens du voulant demain. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de l'Épître aux
Éphésiens.
Nous allons dans la première partie, nous avons vu que
L'apôtre Paul parle des bénédictions spirituelles qu'ont reçues les croyants. Nous avons vu dans le premier chapitre l'œuvre de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons vu que nous avons déjà une position qui est au ciel. Que le Seigneur nous a acquise par son œuvre à la croix. Il nous a rendus agréables en Christ, en lui-même. Le Saint-Esprit nous a scellés quand nous avons cru. Ça veut dire qu'il est venu habiter en nous pour nous donner comme une garantie de ce que nous aurons au ciel. En quelque sorte, une avance. Et aussi une preuve que nous appartenons bien à Dieu. Nous avons vu ensuite une prière qu'a fait l'apôtre Paul, qui a demandé que les Éphésiens comprennent bien tout cela. Puis, nous avons vu aussi l'œuvre vivifiante de Dieu au début du chapitre 2. Nous avons vu le salut que Dieu a offert à l'homme perdu. L'homme mort dans ses fautes et dans ses péchés. Un salut que nous pouvons accepter par la foi. Pas parce que nous avons fait de bonnes œuvres. Pour que personne ne se glorifie. Mais les bonnes œuvres vont suivre la foi pour glorifier Dieu dans les œuvres qu'il a préparées pour nous à l'avance. Maintenant, nous allons voir la suite du chapitre 2. Dans les versets 11 à
22,
l'apôtre Paul va expliquer comment Juifs et nations sont réconciliés en un en Christ. Jusque là, il y avait les Juifs qui étaient le peuple appelé par Dieu. Et il y avait tout le reste du monde. Lorsqu'il est parlé dans la Bible des nations, ce sont par exemple les Grecs. Ça peut être aussi les Japonais, les Égyptiens, ça peut être les Anglais, ou les habitants du Kazan. Nous faisons tous partie des nations. Alors, avec l'œuvre de Christ, le salut est ouvert à toutes les nations. Les Juifs ne sont pas exclus. Ils ont eu de grands privilèges. Et maintenant, les Juifs qui se convertissent vont être réunis ensemble en un. Nous, les nations, on n'avait aucun droit. On était des étrangers. Mais par le sang de Christ, on a pu détruire cette séparation qu'il y avait pour être réunis en un. Lisons chapitre Ibidji, les versets 12 à 16.
Donc,
12. Ici, nous voyons donc que le Seigneur Jésus, par son sang, nous a donné la paix. Et que nous avons les mêmes privilèges. Que nous soyons juifs ou que nous soyons des nations. Les lois et les anciennes rites juifs ont été abolis. Il y a un seul homme nouveau qui le dit au verset 15. Il y a qu'un seul type de croyant. Il y a eu cette réconciliation des deux. On a un seul corps. On retrouve cette expression un seul corps pour l'ensemble des croyants. Et la bonne nouvelle a annoncé à ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Ceux qui étaient près, c'était les Juifs et les habitants de Jérusalem et de la Judée. Et ceux qui sont loin, c'est par exemple les Éphésiens ou les habitants de
Canaan.
Alors verset 18, on voit accès auprès du Père par un seul esprit. Il n'y a pas un accès spécial par un esprit pour les Juifs et un autre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit de la même manière dans les croyants des nations que dans les croyants juifs. Donc, on n'est plus étranger aux bénédictions de Dieu. On est tous les gens de la maison de Dieu. On peut lire encore les versets 20 à
22
qui nous parlent comment cette maison est édifiée.
Wa kuisala kuwa ndani mungu. Donc il y a cette expression de l'ensemble des croyants qui sont un seul corps. Et puis il y a ici l'expression des croyants comme étant un temple, un édifice. Où Dieu va habiter par l'Esprit. Le Seigneur Jésus, c'est la maîtresse pierre du coin. C'est la pierre de base qui va donner l'orientation à la construction
de l'Église.
Et puis, les apôtres vont poser le fondement. Pour qu'il y ait des bases solides pour l'édification du temple. Et ainsi l'église se construit. Maintenant, nous passons au chapitre
3.
Et progressivement, on s'approche d'un aspect pratique. Maintenant, quel a été le but de Paul? Lui qui rappelle au début du chapitre 3 au verset 1 qu'il est le prisonnier du Christ Jésus. Il rappelle que à lui a été donné un service particulier pour parler aux nations. Ce mystère qui était caché lui a été donné à connaître et à faire connaître. Nous pouvons lire depuis donc chapitre 3, depuis le milieu du verset 4 jusqu'au verset 7. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul a eu la connaissance de ce mystère de Christ. Qui n'était pas connu dans les générations passées. Il a le service de le faire connaître. Ça a été révélé aux apôtres, aux prophètes, par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, l'apôtre Paul va faire connaître que les nations sont co-héritières. Par l'Évangile, on va communiquer que l'héritage promis à Israël de bénédiction, eh bien les nations en profitent aussi. Les promesses sont aussi valables pour les nations. Au verset 6, c'est de nouveau répété. Mais les deux en un même corps. Et l'apôtre Paul parle ainsi du ministère qui lui a été donné. Nous pouvons lire maintenant le verset 10.
Voilà, verset 10, du chapitre 3 à Éphèse.
Nous voyons que le verset 10 est bien juste. Alors là, nous voyons que ce mystère a été révélé aux hommes, aux nations.
Abutitum nani malwa masokoka baka ambila bantu badisa mbiambende.
Mais a aussi été révélé au monde des anges.
Ni malwa kabje baka yeku ambila ba mumiabe ya bangelo.
Le frère Michel nous a parlé qu'il y a différentes autorités dans le monde des anges.
Mwane tu Michel okuta mene kwase kuji mako keshima shirishilangane mumiabe ya bangelo.
Alors ces autorités ne connaissaient pas non plus ce mystère de Christ.
Mbono kambene ba mako kesha kabaka jaba manyi malu masoboka a Kristo to.
Et maintenant s'est révélé aux hommes, mais aussi à ses autorités dans le monde des anges. Par qui? Par l'Assemblée. Donc, nous, ensemble des croyants, on a le privilège même de révéler des mystères au monde des anges. D'autres versets nous disent que les anges, ils ont même de l'intérêt à voir les mystères et des choses de Dieu dans notre comportement. On sait qu'il y a notamment la différence, on va le voir plus loin, entre le rôle des femmes et des hommes. Les anges vont aussi pouvoir comprendre un mystère de la relation entre Christ et l'Église.
C'est
pour ça que certaines instructions que nous trouvons entre le rôle des hommes et des femmes des influences beaucoup plus vastes que simplement un petit comportement local. Le monde des anges nous regarde et apprend des choses de notre part sur Dieu et sur Christ et l'Église.
C'est
donc une grande responsabilité aussi. Maintenant, nous voyons dans le paragraphe suivant depuis le verset 14. Que l'apôtre Paul va faire une deuxième prière. Il va prier pour que les Éphésiens soient fortifiés. Lisons chapitre 3, verset 16 au milieu, jusqu'à 19, première partie.
Éphèse chapitre 3,
jusqu'au verset 19, première
partie. Nous voici comme une petite PMA qui trouve une chacun par là.
Voilà, donc l'apôtre Paul va prier pour qu'on soit fortifié, le croyant, quant à l'homme intérieur. Cela va se faire par la présence du Christ dans nos cœurs. Et nous voyons qu'il y a à nouveau cette expression d'être enraciné. Comme un arbre qui a des racines profondes qui le donnent d'être solide. Et en quoi est-ce qu'on doit être enraciné? Dans l'amour. Cet amour de Dieu qui a des dimensions extraordinaires. Et connaître cet amour de Christ, Cela surpasse toute autre connaissance. Et cela se réalise par la soumission à l'autorité de Dieu. Nous ne l'avons pas lu, mais au début du verset 14, l'apôtre Paul dit, je fléchis mes genoux devant le Père. Donc il a cette position d'humilité et de soumission devant Dieu qui est particulièrement exprimée quand on se met à genoux. Voilà, maintenant nous passons au chapitre
4.
Et dans ce chapitre, nous en venons à la marche du chrétien. Individuel comme en assemblée. Lisons les versets 1 à 3 du chapitre
4.
Et quand on lit, essayez de bien remarquer combien de fois il est parlé de l'unité. Une seule. Donc nous voyons que nous allons chercher à garder l'unité. Alors il n'est pas dit l'unité de façade d'une organisation officielle. Mais l'unité de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est dans chaque croyant. Et cela, on va chercher à le manifester. On est reliés les uns aux autres par la paix. Le lien de la paix. Alors, il y a des conditions qui sont données. On en voit sept ici. Il y a l'humilité. Il y a la douceur, la longanimité, juste après la douceur, donc manifester beaucoup de support pour les autres. Il y a l'amour, il y a donc la paix que nous avons
cité.
Il y a aussi une conduite digne. Longanimité, on peut dire aussi une grande patience. Donc on voit que tous ces éléments vont nous aider à garder l'unité quand on les met en pratique. Maintenant, nous continuons la lecture.
Je vous remercie.
Donc ici, nous voyons qu'il y a plusieurs aspects de l'unité. C'est de nouveau répété un seul corps. C'est une notion très importante de cette unité du corps de Christ. Que les croyants devraient chercher à manifester. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit et d'autres esprits. Seulement le Saint-Esprit. Il y a une seule espérance. Le ciel que nous attendons, le retour du Seigneur, d'être avec lui pour toujours, c'est une seule espérance.
À
laquelle nous sommes appelés. Il y a un seul Seigneur, seulement le Seigneur
Jésus-Christ.
Ce n'est pas comme dans d'autres religions, par exemple les hindouistes, où il y a beaucoup de différentes autorités et divinités. Il y a une seule foi qui nous amène au ciel. Dans les religions orientales, ils disent il y a plusieurs moyens de parvenir à Dieu. On peut aller par Bouddha, par Mahomet, par
Jésus-Christ.
Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. Peut-être que lorsque nous exprimons notre foi, nous paraissons exclusifs aux autres. Si on nous pose des questions plus profondes, on devra dire que par Mahomet et par Bouddha, vous ne pouvez pas aller au ciel. Mais seulement par la foi en
Jésus-Christ.
Et ensuite, il y a un seul baptême qui représente la mort et la résurrection en
Christ.
Alors naturellement, on l'exprime par le baptême d'eau. On l'a vu ce matin. Et on exprime ce que Dieu a fait en nous. C'est-à-dire que nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons la vie éternelle. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit au moment où on est converti. Mais c'est la même signification. Il n'y a pas plusieurs baptêmes dans ce sens. Et puis au verset 6, alors un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout. Maintenant, après toute cette unité qui est soulignée, nous voyons dans les versets suivants que pour favoriser cela, Christ a donné des dons aux hommes. À chacun de nous est donné la grâce de Dieu avec différents dons. Au verset 8, il est repris un verset de l'Ancien Testament où il est dit Dieu a donné des dons aux hommes. Nous passons un peu plus loin pour voir le détail de ces dons. Et nous pouvons lire les versets 11 et
12.
Papa,
Efeso, inayi, chapita, wajikumi na umwe, wajikumi na mwibiji.
Donc là, nous voyons de nouveau l'expression le corps de Christ, qui souligne la grande importance de cette image. Cet ensemble des croyants doit être édifié. Cela, Dieu donne différents dons aux différentes personnes. Il y a eu les apôtres au départ. On a vu que c'est pour le fondement, le démarrage de l'Église. Mais
une
période particulière. Et puis, en plus, il y a les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. On ne peut pas faire une liste absolument précise et exhaustive.
Dans
Romains 12 et en Corinthiens 12, il y a aussi d'autres listes. Qui parle des différents dons que Dieu donne aux hommes. Pour le fonctionnement de l'Église. Le prophète, c'est en général celui qui va donner un message de la part de Dieu. Le frère Jean nous a parlé de l'évangéliste, l'évangélisation qui va communiquer le salut aux hommes incroyants. Tout à l'heure, le frère Michel nous a parlé du travail pastoral, du travail de pasteur.
Alors
je
ne
sais pas en langue chiluba, mais en français le mot pasteur a eu un sens déformé. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises évangéliques ou protestantes, le pasteur, c'est le chef de l'église qui est censé avoir tous les dons. Et les autres sont ceux qui écoutent. Mais le sens biblique du mot pasteur, c'est celui qui va s'occuper des brebis. Comme nous l'avons vu dans le cours du service pastoral. Et ensuite, nous avons le mot docteur. Alors, ce n'est pas docteur dans le sens de celui qui va soigner, mais c'est docteur dans le sens de enseigner la doctrine. Et tous ensemble, il y a la responsabilité d'édifier le corps de Christ. Nous continuons maintenant en lisant les versets 14 à
16. Chapitre Mouinaï,
Alors là, grâce aux différents dons, l'Église ne devrait pas être ballottée par plein de doctrines qui se mélangent et se contredisent. Mais au contraire, elle devrait être comme un corps qui fonctionne bien. Dont tous les membres fonctionnent de manière à ce que le corps puisse bouger normalement.
Nous
savons que pour que la main fonctionne bien, il faut que les articulations soit bien relié par des ligaments et des muscles. C'est la même chose pour tout le corps. Et nous pouvons en faire une application spirituelle. Si une église locale ou un ensemble d'assemblées fonctionne bien, c'est parce qu'il y a des différents dons qui sont mis en pratique. Et tous regardent vers le chef Christ. Et là, en étant vrai dans l'amour, on a lu, nous pouvons croître en Christ. Alors, j'ai dit que c'est valable pour l'assemblée locale, mais aussi pour un ensemble d'assemblées. Dans le désir du Seigneur, c'était même pour l'ensemble de l'Église. Naturellement, malheureusement, nous voyons tellement de Églises appelées différemment, qui sont séparées les unes des autres. L'homme n'a pas réussi à maintenir l'unité. Beaucoup de fausses doctrines de déviation sont venues. Mais nous pouvons quand même essayer de témoigner quelque chose de cette unité. En reconnaissant les autres assemblées et églises qui marchent selon la saine doctrine, qui rejettent les graves fausses doctrines, et qui discipline ceux qui marchent dans des péchés graves. Lorsque les péchés graves ne sont pas disciplinés et jugés dans une église, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Lorsqu'on reconnaît des erreurs doctrinales graves, par exemple, ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus, on ne peut pas marcher ensemble. On connaît aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup d'immoralité. Lorsque une église locale ne discipline pas les adultères et ceux qui commettent la fornication, on ne peut pas marcher ensemble. Mais avec tous ceux qui reconnaissent cette nécessité d'exprimer quelque chose du corps de Christ,
eh
bien, même si c'est faiblement, nous pouvons rendre témoignage à quelque chose de cette unité du
corps.
Maintenant, nous continuons de nous approcher toujours plus de la pratique concrète de la marche des
chrétiens.
Et nous lisons les versets 17 à 19. Donc nous voyons déjà dans le début du passage qu'il s'agit bien de la marche. Alors la marche des nations sans Christ. Et là, une compréhension, un entendement qui est obscurci. C'est pour ça qu'elle va se livrer à beaucoup de mauvaises choses. Le sentiment moral va se dégrader. Notamment va se livrer à des débauches et des impuretés. C'est ce qu'on voit dans les sociétés qui ne sont pas influencées par le christianisme. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les sociétés qui, petit à petit, rejettent l'influence du christianisme.
C'est
ce que nous voyons tout spécialement en Europe. L'Europe a eu un immense privilège parmi tous les continents. Elle a connu et été influencée par le christianisme très tôt. Elle a été beaucoup évangélisée pendant près de 2000
ans.
Mais depuis quelques dizaines d'années, elle ne supporte plus le christianisme. Beaucoup d'églises sont transformées dans des lieux de divertissement comme des théâtres, où elles sont abandonnées. Et il ne faut pas s'étonner que l'immoralité a beaucoup pris de place en Europe. C'est une situation grave parce que quand on a beaucoup connu, on a plus de
responsabilités.
Mais l'Esprit de Dieu n'est pas inactif. Il y a encore des sujets de joie dans l'évangélisation en Europe.
Et
l'évangélisation s'est étendue dans le monde entier. Comme probablement jamais auparavant. Maintenant, nous allons continuer notre lecture en lisant le milieu du verset 22 jusqu'au verset
24.
Je vois que
Donc le croyant ne va plus vivre comme les anciennes nations. Donc le croyant va se dépouiller des vieilles actions comme d'un vieil habit.
Apa mwene kuita buja uyayi kujungushila ni kajili yakale bumujibila ambebi byakale.
Il va être renouvelé dans sa façon de comprendre les choses.
Ujunu boku yakali yeye ufukulu ufukulijibwa boku mushindo kumvayi bimpe malu.
Il va revêtir comme un nouvel habit créé selon Dieu.
Uyayi yeye pinje ukulu ata kujilu achoshe nichilamba chifia chifia bumukaji mwanyisha kujinzambi.
Qui est caractérisé par la justice et la sainteté.
Bilamba bifia 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 bifia.
Alors chacun peut lire le détail des versets qui suit.
Bakobo muntu pankayende pankayende jumoko kujibalila pankayende versa ijilonde yi.
Nous n'allons pas lire tout le détail.
Katone tu ibalayon som pinjewo.
Cela parle de la nécessité aussi de nous comporter bien dans nos paroles.
Awe bato ambila kabimushindu tujumoko ya kulongololanga kuiluwetu mumeyi.
De ne pas nous laisser gagner par l'amertume, mais au contraire de pardonner, d'être bon et compatissant les uns vers les autres. Le début du chapitre 5 continue dans le même sens.
Et
nous pouvons lire les versets 6 à 7. Le début du chapitre 5 nous parle d'être dans l'amour.
Donc,
d'offrir nos vies comme un sacrifice à Dieu. Comme ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Il est parlé de s'éloigner tout spécialement de la fornication, de la cupidité, qui est un désir insatiable de toujours avoir
plus.
Il est rappelé comme il est nécessaire de parler avec des paroles correctes. Rappelez dans le verset qu'on vient de lire qu'il faut faire attention de ne pas se laisser séduire. Par des paroles qui n'ont rien à voir avec le christianisme.
Et
si des croyants se sont laissés influencer par le monde, comme le verset 5 que nous n'avons pas lu, c'est-à-dire si un croyant s'est laissé gagner par la fornication, par l'impureté en général, par la cupidité qui est l'idolâtrie, eh bien, il n'y a pas de place pour cela dans le royaume de Christ. Et
il
on doit montrer notre distance avec ça. Il est dit, n'ayez donc pas de participation avec eux. Si un croyant se laisse gagner par ces choses, il faut l'avertir, le mettre en garde. Et s'il ne veut pas écouter, on doit prendre de la distance. Parce que le royaume de Dieu, on ne va pas lire tous les versets qui suivent. Mais il est caractérisé par la lumière dans le Seigneur. Lisons juste la fin du verset 8 et le verset 9.
C'était 8, 7 et 9.
Fin de 8 et 9.
Dès que tu vois 20, on m'a dit que tu es 20, tu es 8. Tu dis que tu es 8, tu es 8. Tu es 8.
Donc on voit la nécessité de marcher dans la lumière, de pratiquer la bonté, la justice, la vérité. Lisons ensuite encore le verset
11.
Là, nous voyons que, avec les œuvres du mal, comme on l'a dit avant, il ne faut pas avoir de communion avec ces choses. Mais il faut plutôt reprendre ceux qui se laissent gagner par ces choses. Le verset 15 nous dit de marcher soigneusement. Donc, être attentif et puis saisir l'occasion de parler du Seigneur. Le verset 17 nous dit de bien comprendre la volonté du Seigneur. Et le verset 20 nous dit de toujours rendre grâce. Lisons le verset 21. Donc là, il n'est pas dit soyez soumis aux prêtres ou aux pasteurs.
Comme
malheureusement dans l'histoire de l'Église, ça a été souvent le cas. Mais il est dit d'être soumis les uns aux autres. Peut-être un frère ou une sœur pourra m'apprendre quelque chose.
Que
moi je peux accepter. Et d'autres, je pourrais leur transmettre quelque chose. Maintenant nous avons la portion du verset 22 du chapitre 5.
Jusqu'au
verset 9 du chapitre 6. Ce sont des versets bien connus. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup. Ils seront repris aussi dans l'Épître aux Colossiens. Il y a d'abord les relations de famille. Et puis les relations de travail. Il est parlé des enfants, de la relation enfant-parent. La nécessité pour les enfants de respecter et d'honorer et d'obéir à leurs parents. Les parents de leur donner une discipline juste. Sans les provoquer. Spécialement, l'avertissement est donné au père. Peut-être ils ont la tendance des fois d'être un peu plus
durs.
Et dans la famille, il y a un long passage dans le chapitre
5
sur les relations entre les maris et les épouses.
C'est
un beau passage parce que l'apôtre fait le parallèle avec Christ et l'Église.
Christ et l'Église.
Pour les maris, il y a spécialement la responsabilité de manifester l'amour envers leurs époux.
Bwa kujumulume bajiba mwambile yeyini ayikuleja jinanga kujumuka juende.
Il est parlé du parallèle avec Christ qui nous a tant aimés.
Muyuko kola kujumuta pulule ne Kristo wakatunanga bipole.
Et il est parlé de Christ qui par la parole purifie.
Bajiba yakutujaje kabya afakiliso kubitile kujii ujiuya kuse kulengeja.
On peut y voir aussi une responsabilité du mari, du chef de famille, de purifier la famille par la parole de Dieu.
Mbuko bese bujina bokabiji mulume mujiku na shamujiba kabani yeye ayiputo keshijiku niji janzambi.
Il y a une exhortation que une grande partie du monde n'accepte plus aujourd'hui.
Kajukuji mumubolo bujiba kule bujiba bungi le fobolo bakaba yibita buja.
Que l'épouse soit soumise à son mari.
Mais
là, il y a une application pour témoigner à la soumission de l'Église au Christ.
C'est
que dans la pratique, on a beaucoup de peine à réaliser l'un et l'autre. Donc l'amour et la soumission. Mais il faut regarder cela par rapport à l'Église.
Il est dit
au verset 32, ce mystère est grand. Mais je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Juste avant, il est parlé de la naissance d'un couple. L'homme qui va laisser ses parents pour s'attacher à sa femme. C'est un verset de Genèse qui est répété plusieurs fois. Dans la parole de Dieu. Et qui parle aussi de l'union autant affective que spirituelle que physique du mari et de la femme.
On
peut encourager chaque couple à relire régulièrement les versets 22 à 33 du chapitre 5.
Dans le
chapitre 6, les versets 5 à 9, Il est parlé des relations de maître à esclave. On dit qu'à l'époque de l'Empire romain, quand cela a été écrit, une très grande partie de la population avait le statut d'esclave. On appartenait à un maître pour faire tel ou tel travail. Alors l'apôtre Paul ne dit pas il faut faire la révolution.
Il
prend les relations humaines comme elles sont. Mais il dit, les deux, vous avez une responsabilité. Si vous êtes esclave ou serviteur, aujourd'hui, on peut faire le parallèle si vous êtes employé d'une société, d'une entreprise.
Eh
bien, comportez-vous correctement. Au verset 6, il est dit, ne servant pas pas seulement comme pour plaire aux hommes, mais comme pour plaire à Christ. Il est même dit faisant la volonté de Dieu ainsi joyeusement. Comme si on servait le Seigneur plutôt qu'un homme. Alors dans la pratique, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des maîtres, des employeurs qui sont durs.
Mais ces
versets nous aident à le supporter.
Et il y a
aussi une responsabilité au verset 9 pour les maîtres ou les
employeurs. Pour
les responsables et les chefs dans le
travail,
de ne pas faire des menaces,
mais
d'être juste, sans faire des privilèges d'une
personne à l'autre.
Maintenant, nous arrivons à la dernière partie. J'ai dit au début qu'il y avait être
assis.
La position que nous avons, chaque croyant, nous sommes déjà au ciel dans ce sens.
Nous
avons une place assurée là-haut. La deuxième partie, marcher. Nous avons vu beaucoup de caractéristiques de notre marche de chrétien sur la terre.
Et
maintenant, la troisième partie, c'est tenir ferme.
C'est-à-dire,
c'est le combat chrétien. Alors, c'est aussi un passage important. Parce que il y a un combat quand on est chrétien. Si je pars au combat avec un t-shirt et un petit pantalon, si je suis pieds nus et que je veux combattre avec mes poings, je ne serai pas un soldat efficace. Par contre, au verset 11, nous pouvons lire les versets
11 et 12.
Il y a une armure à revêtir. Nous avons vu dans le sujet de Satan et des démons qu'il y a une vraie lutte contre ces puissances spirituelles. Mais que nous n'allons pas combattre n'importe comment. Et là, nous avons des indications plus précises comment pouvoir combattre. Alors, il fait un parallèle avec les soldats du temps des Romains. Et dans les versets 14 à 17, il est précisé comment revêtir cette armure.
Au verset 14,
il faut mettre une ceinture pour tenir bien tous les éléments de l'armure et des vêtements ensemble. Le parallèle spirituel, c'est la vérité. Si l'on ne connaît pas la vérité biblique, bien les choses ne vont pas bien tenir ensemble. Ensuite, il y a une cuirasse qui va protéger toute la partie où il y a les organes vitaux à l'intérieur. Spirituellement, c'est la justice. Nous savons que nous avons été justifiés par l'œuvre de Christ. Nous ne pouvons pas perdre le salut. Si je n'ai pas cette cuirasse de la justice et que je pense que je peux perdre le salut, à tout moment, l'ennemi pourra me faire des blessures qui vont me déstabiliser. Et nous voyons les croyants qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut. Ils sont tout le temps dans la crainte et déstabilisés. Au verset 15, il est parlé des chaussures.
Oui.
Si le soldat il va à la guerre pieds nus, qu'il arrive dans une zone avec des cailloux pointus, il va souffrir et il ne pourra pas bien avancer. Et ça, il est dit que ces chaussures sont comme l'évangile de paix. Si nous voulons aller de l'avant pour annoncer l'évangile, il faut aussi avoir ces chaussures où l'on comprend bien l'évangile à annoncer. Au verset 16, il est parlé du bouclier. L'ennemi peut nous envoyer des flèches, même des flèches enflammées. Alors, on peut faire un pas de côté, mais si on n'a pas le temps, il faut mettre le bouclier. C'est le bouclier de la foi. L'ennemi va peut-être essayer d'ébranler notre foi, mais si le... Nous avons vraiment le bouclier de la foi en Christ. Nous pourrons stopper et éteindre ces flèches.
Au
verset 17, il est dit le casque du salut. À nouveau, il faut bien avoir compris le salut en Jésus-Christ. Parce que le casque va protéger là où je vais donner les ordres du commandement de mon corps et de ma vie.
Et
si je ne suis pas de nouveau sûr de mon salut, je vais pouvoir prendre des coups qui vont même branler beaucoup.
Pour
que je comprenne bien qu'est-ce que c'est que le salut, et nous l'avons eu avec le frère
Jean.
Enfin, il y a l'épée de l'esprit. Une arme offensive essentielle. Alors nous avons, quand nous sommes croyants, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais il est aussi parlé de la parole de Dieu. Si je ne connais pas bien la parole de Dieu, je ne pourrais pas être efficace avec l'épée de l'Esprit. Nous avons vu que le Seigneur a répondu aux tentations du diable. Chaque fois avec la parole de Dieu. Et le diable il est parti. La même chose, nous avons besoin de savoir manier cette épée. Si j'ai l'épée attachée à la ceinture, que je la sors, mais je ne sais pas comment l'utiliser, je ne serai pas un bon soldat efficace. Mais si j'ai appris à parer les coups et puis à en donner, si je connais bien la parole de Dieu, je pourrais être un soldat efficace pour le Seigneur. Nous arrivons à la fin. Nous voyons verset 18 qu'il faut accompagner cela par toutes sortes de prières.
En tout temps, avec persévérance,
il faut toujours recommencer à prier.
Et
avec des supplications pour tous les croyants. Et l'apôtre Paul conclut en disant, pensez à moi pour que je puisse aussi
évangéliser.
La conclusion, c'est qu'il envoie Tichic dont nous avons parlé. Apporter la lettre à l'Assemblée
d'Éphèse.
Et il va encore expliquer d'autres détails qu'il n'a pas écrits. Nous terminons en lisant les versets 23 et 24 qui sont un bon encouragement pour nous.
Amen.
Toi, ça qui dit la wabou.